Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU. Céline Bonico-Donato introduit la problématique générale de la deuxième session de ce séminaire, puis l'intervention du géographe Georges-Henri Lafont.
Donc très bien, nous allons commencer cette deuxième session qui s'intitule « Lecture politique des nouvelles esthétiques urbaines ». Et donc cette session se propose de mettre au travail l'hypothèse d'un horizon critique des approches sensibles de l'espace en interrogeant l'émergence et les effets de nouvelles esthétiques urbaines. Donc, lecture politique des nouvelles esthétiques urbaines. Entre enchantement et aseptisation, végétalisation et ludification, patrimonialisation et globalisation, de quoi ces esthétiques émergentes sont-elles le symptôme et quels sont leurs enjeux ? Donc l'objet de cette session est de tenter de cerner, de qualifier, de déterminer le visage de ces nouvelles esthétiques urbaines, de tenter également de préciser la manière dont elles infléchissent les conduites, dont elles conduisent les conduites en reprenant une formule de Michel Foucault. Et pour cela, il s'agira de réfléchir à partir de terrains d'enquête précis aux différentes méthodes qui permettent de capter ces esthétiques dans leur expression sensible, dans leur capacité d'imprégnation et dans leur puissance de suggestion. Donc nous allons commencer cette session en écoutant notre invité Georges-Henri Lafont, qui est géographe, maître de conférence en ville et territoire à l'ENSA Saint-Étienne, qui a enseigné dans cette école nantaise il y a quelque temps, qui est chercheur à l'UMR Environnement, Ville et Société, et qui nous propose une intervention intitulée de la manière suivante « Vers une uniformisation et une climatisation généralisée de l'esthétique urbaine, exploration méthodologique et analytique de l'urbain, entre parenthèses, espace, discours, expérience ». Oui, merci Georges-Henri.
C'est un vrai titre de géographe. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est plus une réflexion des questions et des hésitations que je vais essayer de venir partager avec vous plutôt qu'une réflexion un peu stabilisée sur un certain nombre de recherches. C'est plutôt vers une phase, on va dire, exploratoire et continue depuis une quinzaine d'années, effectivement, autour d'une articulation entre production de l'espace, c'est-à-dire effectivement l'établissement d'une réalité spatiale et la transmission des valeurs. Là, je reprends ça à Denis Martouzet, et aussi les questions de spatialisation de Rothschild. Donc là, je m'inscris plutôt dans un courant de la géographie plutôt critique. Et de l'autre côté, la spatialité. Donc là, je cite Michel Lussault, sur l'expérience individuelle et sociale qui engage la personne, son corps, ses capacités, ses sens, et la met à l'épreuve de l'espace, qui est à considérer comme un environnement de l'action. Et bien entendu, le troisième niveau, si je puis dire, la question de l'urbanité, c'est-à-dire moi que je prends comme étant ce caractère de ce qui est urbain. Et effectivement, c'est pour ça que nous sommes tous et toutes réunis ici, on voit bien que l'urbain est soumis à ce tournant esthétique, renvoyant au-delà du culturel et de l'artistique, à cette dimension sensible, à cette question de la sensibilité qui dépasse, pour moi, les enjeux d'embellissement des espaces urbains, de la patrimonialisation, de la ville culturelle, pour vraiment aborder ces questions d'ambiance, d'expérience, d'atmosphère et d'affect. Parce que voilà, moi, c'est plutôt cette entrée-là des affects. Alors, je prends volontairement au sens très, 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 très large du terme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle de cette esthétique, il y a aussi ce fameux tournant affectif qui serait ici, ou en tout cas installé depuis beaucoup de temps, qui nous invite, qui nous enjoint, pour ne pas dire autrement, exprimer nos émotions, nos ressentis, à peu près dans tous les domaines que ce soit, et a fortiori dans l'urbain, où l'urbain deviendrait un peu une sorte de performance, où il faudrait qu'on soit actif, à participer à peu près de tout ce qui est lié à cet urbain. Et on le retrouve aussi, que ce soit les élus, que ce soit les urbanistes, que ce soit les architectes. On voit aussi que ce soit aussi l'approche théorique. Justement, on est tous et toutes en train de se questionner sur l'ambiance, les expériences, les affects. On voit bien que tout cet univers-là prend de plus en plus d'importance. Et moi, ce qui m'intéresse, et je ne suis pas le seul, c'est d'essayer un peu de comprendre justement comment tout ça se met en place et comment finalement, ce qu'on peut appeler les imaginaires, en reprenant un peu là Taylor et bien entendu Castoriadis, comment la production de l'urbain, que ce soit dans les discours qui sont portés sur l'urbain ou que nous-mêmes on porte par rapport à ce que l'on fait, nos expériences bien entendu, qu'est-ce que ça fait de se promener en ville, qu'est-ce que ça fait de regarder ce qui se passe par exemple de l'autre côté de cette fenêtre, mais aussi dans la production architecturale urbaine, comment tout ça, pour moi, nous contraint, nous incite, nous oblige ou nous autorise à avoir un certain nombre de choses, et puis comment tout ce cheminement à titre individuel se met en place et comment on arrive chacun et chacune finalement à continuer à exister au milieu de tout ça. Alors volontairement, quand je disais au début, c'est encore en cours, ça s'arrêtera je ne sais pas quand, c'est effectivement avec ces quelques éléments qui permettent un peu de situer cet univers qui est, si je puis dire, qui est celui de mes recherches et aussi de mes questionnements, avec un certain nombre d'hypothèses qui permettent essentiellement ça, c'est-à-dire ces affects, qu'est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont un frein, est-ce qu'ils sont un moteur, est-ce qu'ils sont des directions, des actions que l'on met en place. Avec cette thématique quand même, que je reprends aussi, ou en tout cas je m'inscris là encore une fois dans celle qu'avait ouverte Michel Lussault autour des idéalités, c'est-à-dire c'est les discours, c'est les objets, c'est les processus, c'est pas simplement les images, c'est comment à un moment ou à un autre la pensée sous toutes ses formes agit ou nous fait agir. C'est un travail effectivement qui a commencé ici à Nantes, puis après s'est poursuivi à Lyon. Avec Mathieu Adam, où on a travaillé sur la question de la production du quartier de Confluence, mais plus largement de comment Lyon, finalement, a changé un peu pour passer vraiment en mode ville du XXe siècle ou du XXIe, axé sur la durabilité. C'est une recherche aussi menée sur les imaginaires populaires entre Sao Paulo, Saint-Étienne et Lyon, avec Michel Rothenberg notamment, il y a quelques années. Et puis aussi une partie, là encore pour le coup très 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 exploratoire, c'est le mémoire d'habilitation à diriger des recherches avec Denis Martouzet à Tours. Et donc toutes ces questions-là, j'essaye un peu de venir les explorer, en non pas mettant l'ambiance au second plan, au contraire, mais vraiment m'intéressant moi à l'affect comme étant un effet du monde, autant qu'un cadre pour le concevoir, ce qui effectivement n'est pas très éloigné aussi de la définition qui peut être donnée à l'ambiance. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi finalement d'essayer de, non pas de dire voilà le terrain principal actuel, ça l'est forcément, ou en tout cas il est intéressant à plus d'un titre, à la fois pour des raisons très, très, on va dire, très pratiques, étant enseignant-chercheur à Saint-Étienne, mais aussi parce que voilà, c'est une ville comme les autres, comme Nantes, comme Lyon, comme d'autres territoires qui me semblent toujours intéressantes à venir travailler. Et voilà un peu, moi, tout ce qui me questionne, ou à Saint-Étienne, tout ce que j'essaye de venir analyser, soit d'une manière très, très segmentée ou très sectorielle, le récit, le projet urbain, l'architecture, l'urbanisme, l'événementiel, la touristification, et puis finalement d'essayer de dire, est-ce que ça serait intéressant de croiser tout ça, d'articuler tout ça, pour en arriver justement à cette production finalement de la ville. Et à Saint-Étienne, il y a des éléments qui sont assez intéressants, qui pour moi sont un peu à cette croisée entre l'affect et l'ambiance. La fameuse, dont tout le monde a discuté à un moment ou un autre, ou commenté, le fameux article qui était paru dans Le Monde en 2014, et bien justement, qui, avec son titre « Saint-Étienne, le centre-ville miné par la pauvreté », qui venait un petit peu jouer justement sur les affects ou sur le sentiment, les sentiments d'identité, les sentiments d'appartenance à Saint-Étienne, et qui a provoqué une réaction, soit très officieuse, soit très officielle, une réaction vraiment comme si il y avait un enjeu de soi, comme si cet article-là avait vraiment remis en question la transformation de Saint-Étienne, qui jouait, comme toutes les villes, Nantes comprise, dans sa transformation d'image, mais aussi dans sa transformation de l'espace, en essayant d'instaurer un nouveau récit en reprenant les valeurs qui sont celles de Saint-Étienne, ou en tout cas celles qu'on met en avant, la solidarité, la créativité, etc. etc. Ce journal, ou en tout cas cet article, eh bien, tout de suite, il y a eu une production de photos dites, allez, on ne va pas dire positives, mais qui essayaient de montrer ce qu'était Saint-Étienne au sens le joli Saint-Étienne ou la transformation de Saint-Étienne, qui jouait sur tous les archétypes, on va dire, de l'imagerie plutôt positive de la ville, en mettant en avant l'architecture nouvelle, en mettant en avant les espaces verts. Mais c'était intéressant de voir ce jeu, c'est-à-dire de reprendre comment on reprenait les codes qui étaient soi-disant à valoriser pour essayer justement de remettre une image positive en avant. Puis après, d'autres questions autour, évidemment, autour du design. Qu'est-ce que ça fait, ce fameux design? Qu'est-ce que ça change sur l'image de la ville? Est-ce que c'est le nouveau moteur, effectivement? Comment les gens le vivent? Comment ils réagissent? Comment on se positionne? Le patrimoine à travers Le Corbusier, et comment on joue, justement, autour de ce Corbusier-là, avec des limites entre, enfin, pour moi, non pas entre une bonne patrimonialisation et une mauvaise patrimonialisation, mais entre un jeu qui mobilise, qui suscite forcément quelque chose qui est de l'ordre de l'affect et du positif. Et puis aussi un acteur intéressant, me semble-t-il, à analyser, c'est l'établissement public d'aménagement, qui est un peu, non pas encore une SEM comme ici, on en a quelques-unes, mais qui est un peu l'opérateur de la transformation matérielle à Saint-Étienne, et voir comment, à travers leur production architecturale, mais aussi leur production du discours qui accompagne leur mise en récit en tant qu'acteur de la ville, eh bien, ils jouent sur tout un registre qui est lié justement à cette ambiance, à cet affect, pour essayer de positiver et d'inscrire petit à petit une image et un changement plutôt positif à Saint-Étienne. Et ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de croiser tout ça. Et j'ai trouvé, ou en tout cas, je suis en train d'explorer un objet, si je puis dire, mais qui n'est pas qu'un objet, assez intéressant, qui s'appelle donc le Style, qui est un centre commercial, un retail park, qui se veut à la fois une entrée de ville, qui se veut à la fois une nouvelle ville, c'est-à-dire qui projette aussi ce que pour beaucoup doit être ou serait le Saint-Étienne à venir. Et cet objet-là, eh bien, depuis un an, là aussi, à travers différentes choses, des stages, des étudiants, ce fameux programme de recherche France-Brésil, ou même une recherche qui commence à se construire avec l'EPAS, donc avec l'établissement public d'aménagement, mais plutôt en mode poil à gratter, et c'est ce qu'ils ont accepté, c'est plutôt agréable. Eh bien, on essaye, parce que je ne suis pas tout seul, de venir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il nous oblige à faire, et comment ce lieu qui se veut à la fois ordinaire et extraordinaire, eh bien, nous installe un peu dans un climat un peu particulier. Donc, rapidement, le Style, vous êtes sur une entrée de ville et une sortie de ville. Vous êtes entre deux autoroutes, celle qui mène à Clermont-Ferrand d'un côté, celle qui mène à Lyon de l'autre, sur une ancienne friche industrielle, friche commerciale. Vous êtes dans un bout de ville typique des années 60 et 70, avec ses rangées de boîtes à chaussures, etc. Et cet objet est intéressant, ou en tout cas, il y a eu tout un contexte qui l'a à la fois rendu intéressant. Il apparaît, ou en tout cas, il est dans les cartons de la ville depuis 25 ans, mais Saint-Étienne n'étant pas une zone particulièrement sous pression, eh bien, il faut toujours trouver d'un côté l'argent et puis trouver les raisons pour le sortir. Et puis, il sort de terre au moment où, justement, on a d'un côté toute la polémique ou toute la levée de boucliers contre Europa City, et qui arrive finalement à ses fins d'un côté. Et puis de l'autre, il sort de terre un moment où on a aussi deux phénomènes. Le premier, c'est une paupérisation du centre-ville, une déprise économique, une fuite commerciale qui amène à cette image donc de Saint-Étienne, un territoire miné qui finalement subit à peu près le même sort que les petites villes et les moyennes villes. Et puis on inaugure ça en plein troisième confinement, juste le jour où le troisième confinement est plus ou moins acté. Il y a l'inauguration qui est faite, vous la voyez en dessous, et qui provoque là aussi tout un tas de réactions. Donc tout de suite, à Saint-Étienne, il y a une espèce vraiment de peur, de mise à distance de cet objet-là ou de cette partie-là comme étant un objet du passé, comme étant quelque chose qui ne correspond ni aux valeurs actuelles, ni aux attendus locaux, alors que on pourrait dire que du côté des architectes, du côté des urbanistes, ils ont au contraire mis le paquet pour essayer de faire en sorte que cet objet-là, dans ses formes architecturales, dans son récit, dans sa composition, dans son articulation avec la ville, soit plutôt allez, je ne vais pas dire en prise avec les enjeux et les phénomènes actuels, mais soit vraiment finalement un morceau de ville et soit un reflet de ce que les élus ont envie que Saint-Étienne soit. Et ça marche par tout un tas de choses, déjà par des discours. Ici, vous êtes ailleurs, avec toute l'ambiguïté qui peut être portée sur ce « ici, vous êtes ailleurs ». Est-ce que vous êtes ailleurs de Saint-Étienne ? Est-ce que vous êtes ailleurs que dans un centre commercial classique ? Vous êtes où au fond ? Et il y a un jeu qui se fait entre, on va dire, entre l'administrateur et puis le gestionnaire du centre commercial qui lui dit, quand on fait un certain nombre d'interviews avec eux, on rend compte que l'idée est de dire « ici, vous êtes ailleurs que dans un centre commercial classique et vous êtes ailleurs, finalement, du Saint-Étienne, vous êtes dans le Saint-Étienne qui va venir ». Et du côté des élus, le « ici, vous êtes ailleurs », c'est plutôt l'idée de proposer quelque chose de positif et d'attractif par rapport à un centre-ville qui est considéré comme un lieu, je cite encore, et cette fois-ci, je vais essayer de mettre quand même des précautions, je cite une élue responsable du commerce qui dit « le style, c'est génial parce que vous nous avez chassé la racaille du centre-ville ». Donc il y a ça, il y a aussi le style, le nom en lui-même, qui est censé à la fois rappeler d'un côté l'acier, donc une belle assise, on va dire, par rapport à l'identité manufacturière de Saint-Étienne, mais qui forcément joue sur le style aussi, au sens quelque chose de radicalement différent. Vous avez cet objet-là, la mantille, qui coiffe finalement des boîtes à chaussures, jusque-là rien d'original, qui se veut, d'après ses promoteurs, un petit clin d'œil à la fois, là, on va dire, au grand paysage, parce que ça reprend donc la signature des collines qui entourent Saint-Étienne, qui se veut aussi un clin d'œil à la métallurgie, bien évidemment, qui se veut aussi rappeler la rubannerie, la soierie, bref, qui est, d'un point de vue identitaire, cette volonté de l'ancrer dans quelque chose qui va susciter de la part des habitants, parce que c'est quand même ça la première cible, les habitants, quelque chose de positif, au sens de dire « vous êtes toujours ici à Saint-Étienne, mais vous vous inscrivez dans autre chose ». Vous avez le côté signal qui est quand même assez fort quand vous êtes sur l'autoroute. C'est vraiment là pour le coup un emblème, un marqueur assez significatif qui dit ben voilà, Saint-Étienne est en transformation. Et cet imaginaire-là de Saint-Étienne qui continue à avancer, le style a peut-être ce côté-là intéressant, c'est qu'il donne cette idée de préfiguration, comme si finalement le projet urbain, lui, continuait à être en marche, pour rester dans un propos plutôt actuel. Et ce côté-là est assez fascinant à observer. Et puis après, dans sa configuration, à la fois dans sa structure, donc qui se veut, effectivement, comme vous voyez, qui se veut très, très vert, très durable, et qui essaye de jouer sur cette complémentarité entre le commerce d'un côté, et puis quand même les aspects ludiques, une bonne ambiance, etc. etc. Et c'est tout ça qu'on essaye un peu de décrypter. Et ce style-là propose finalement une manière de vivre le territoire à travers, pour moi, à travers un certain nombre d'expériences sensorielles. Alors là, j'ai quelques photos qui vous permettront, je l'espère, d'apprécier un certain nombre de ces éléments-là, pour le coup, là, très spatiaux, qui permettent de créer un peu cette ambiance-là. Alors, au-delà du nom, au-delà de cette idée d'ambiguïté aussi, vous êtes ailleurs, ça fonctionne comme un parc d'attractions. On essaye d'embarquer dans un imaginaire plutôt positif. Il y a un certain nombre de totems et de symboles. À la façon d'Hollywood Boulevard, ils ont implanté sur une des deux allées commerciales des petits plots d'acier où à l'intérieur sont réemployés des mots gaga, donc qui est le patois stéphanois, et des mots associés à la nourriture, au bien-être. Donc, quand on marche, on baisse la tête et on est un peu imprégné par tous ces termes-là qui sont censés à la fois nous rappeler des choses positives et attractives, mais qui nous les rappellent avec le patois, qui est une langue quand même, et avec une langue qu'on emploie, stéphanois et stéphanoise, pour se distinguer, mais pour se rappeler finalement qu'on est d'ici, si je puis dire. Et puis d'autres choses, vous avez cette statue-là qui s'appelle Lucie, qui tient une pomme de pin dans ses mains, qui est devenu un peu l'emblème du centre commercial. Et il y a eu tout un concours au moment de sa création. Il y a eu un concours pour essayer de lui donner un nom, pour demander aux gens, aux Stéphanois, aux Stéphanoises, de lui trouver un nom. Alors, elle s'est appelée Lucie, la fille au babet, parce que le babet, c'est la pomme de pin, toujours pareil, en gaga. Et puis, on s'est rapidement rendu compte qu'il y a exactement la même statue en Pologne, dans un autre centre commercial. Donc, le côté un peu unique, particulier, et puis forcément qui joue sur la corde sensible, c'était à discuter. Et tout de même, dans ce retail park, il y a un jeu qui est fait justement par les aménagements, par le bruit, par les couleurs, qui sont des choses totalement absentes à Saint-Étienne quand même. Saint-Étienne qui, à chaque fois, un coup elle était rouge, un coup elle était verte, un coup elle était noire. La seule personne, ou en tout cas à un moment, on a essayé de lui donner une couleur jaune. Un maire avait essayé de faire quasiment repeindre la ville en jaune. Ça lui a coûté un troisième mandat. Ça lui a coûté un troisième mandat parce que c'était un acte assez fort de changer la couleur. Et Saint-Étienne, au-delà de la couleur footballistique qui n'est pas très en forme actuellement, mais là, il y a eu un vrai changement, il y a eu une vraie rupture parce que ça touchait quelque chose qui était vraiment sensible. Saint-Étienne, certainement comme d'autres villes, mais on aime jouer avec ce caractère vraiment de ville en décroissance, de ville en crise. Ça fait partie d'une identité, ou en tout cas, on le revendique, on le met en avant. Et là, il y avait eu vraiment quelque chose qui avait touché d'une manière épidermique, à la même manière que l'article du Monde, les Stéphanois et les Stéphanoises à ce moment-là. Et donc, le style joue sur une ambiance agréable. C'est un endroit chaleureux, c'est un endroit familial. C'est quelque chose qui, justement, qu'on ne retrouve pas, ou en tout cas, si on analyse un peu froidement, on ne retrouve pas ces qualités-là ou cette ambiance-là dans les espaces publics stéphanois. À la différence, par exemple, d'autres villes comme Lyon, qui ont fait, elles, un gros boulot sur les espaces publics. Ben, on n'a pas ça. Et donc, on a ce côté qui est assez intéressant, ou en tout cas assez fascinant à observer, d'ambiance agréable. Et même moi, qui vivais plutôt d'une manière réfractaire, et ça pose aussi ces questions, en tout cas pour moi, de me dire, tiens, je m'intéresse à l'affect. Ah oui, mais moi, je suis forcément affecté par la recherche que j'ai envie de mener. Donc, comment j'arrive à trouver ou comment j'arrive à restituer les choses d'une manière les plus objectives possibles. Donc, on a bien cette ambiance chaleureuse, agréable et de tranquillité, avec un élément intéressant qui est l'eau, qui est complètement absent dans Saint-Étienne. On a une histoire, effectivement, d'eau, Saint-Étienne, Furan, Furiana, donc les Yéduliens, mais la rivière qui coule sous Saint-Étienne est cachée. Et il y a aussi cette espèce de malaise et de rapport à l'eau assez singulier. Il le recrée au style, et ça donne une autre caractéristique à cette ville-là, avec un petit côté village de vacances, qui est aussi, et là, c'est une première interprétation ou une piste que j'aimerais tirer, un petit côté village de vacances, comme on peut retrouver dans le sud-est de la France, parce que Saint-Étienne, ou les Stéphanois et les Stéphanoises, vont prioritairement en vacances à la Grande Motte, à Port-Camargue, bref, sur la côte méditerranéenne, autour de Montpellier et Sète. Et on retrouve ces caractères-là. Et les gens aussi, quand on les interviewe, bien c'est ce qu'ils racontent. Ils retrouvent ça. Un lieu ludique, parce qu'on n'en a pas non plus, animé, il se passe toujours quelque chose. Il y a des sons, des bruits, des animations. Il y a une ambiance, voilà, pour le coup, encore assez particulière, et très sécurisée. C'est-à-dire, on se sent en sécurité, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est dans les rues de Saint-Étienne, même si c'est pas ni l'Ukraine ni Beyrouth, mais il y a quand même ce sentiment assez particulier. Et bien là, on retrouve ça. Alors, de ces premières analyses, je me retrouve un peu moi coincé au sens de dire, pour l'instant, je vais quand même cocher ce que j'ai envie de voir ou ce que j'ai envie de montrer. Ou je me dis, tiens, c'est intéressant parce que j'y vois justement ce que j'ai envie de faire. Et puis, comment on peut saisir les affects? Jusqu'où on peut remonter? D'ailleurs, est-ce qu'il faut remonter quelque part? Pour les ambiances, visiblement, si j'en crois le nombre d'années que vous travaillez cette question-là, oui, les outils, les méthodes, ça, il n'y a pas de souci, on les a. Mais du côté des affects, et c'est les questions qu'on se pose, par exemple, avec Denis, avec Nathalie aussi, Nathalie Audace, Benoît Feldel, enfin, tout un petit groupe, jusqu'où on peut aller pour vraiment comprendre tout ce chaînage-là, c'est-à-dire de la première réaction qui, elle, renvoie à notre vécu, à nos expériences, à nos passés, la capacité qu'on va avoir de maîtriser ce qui nous est proposé, ou non, lui donner un sens, de l'inscrire dans notre vie, finalement, pour pouvoir après être, non pas apaisé, mais se retrouver un peu cette sensation-là. Alors, à Lyon, on a essayé, sur d'autres thèmes, de se dire, il faut appareiller les gens. Comme pour la publicité, savoir qu'est-ce qu'ils regardent, etc., en mettant des lunettes, enfin, bref. Ah oui, quand on se dit... est-ce qu'on est déjà dans le cognitif? Comment on peut saisir le pré-cognitif au final? Et c'est un peu cette question-là, moi, qui m'embête, ou en tout cas qui me semble intéressante à explorer, dans ce sens de est-ce qu'on peut? Et la seconde, est-ce qu'il faut? Ou est-ce qu'on peut s'autoriser cette sorte de bricolage pour dire on s'intéresse à ce qui nous met en mouvement, à ce qui nous fait agir, et la manière dont on réagit, mais on sait qu'il y a toute une partie qu'on n'arrivera jamais à attraper. Et est-ce qu'il faut l'attraper ou est-ce qu'on ne peut pas l'attraper? Après, il y a la question du « nous » et du « je ». Comment je peux rendre compte de ce que vit autrui? C'est des questions qu'on peut poser autour de l'entretien ou du parcours commenté, de dire bah, les méthodes, on en a à l'appel. Est-ce que le fait de les, je ne vais pas dire d'épuiser, mais de les multiplier nous donnera la plus de pertinence possible? Alors, est-ce que l'observation suffit dans un certain cas? Est-ce qu'il faut rajouter un parcours commenté? Est-ce qu'il faut après passer un certain nombre de discours, dans un logiciel lexicographique pour voir finalement, ben, très concrètement, qu'est-ce que disent les gens en termes de mots, qu'est-ce qui sont répétés, qu'est-ce qui est récurrent, ou au contraire, qu'est-ce qui est plutôt unique. C'est un peu toutes ces interrogations-là, toutes ces questions-là, d'un point de vue très méthodologique, qui sont un peu celles que l'on se pose et que je me pose, moi, à travers le style, mais bien sûr à travers d'autres réalités. Toutefois, avec cette idée... que par le sensible et notamment par l'affect, ce qui met en mouvement, après comment on arrive à gérer ça et arriver à décrypter ça, me semble-t-il, il y aurait quelque chose d'assez intéressant pour essayer de rendre compte de ce que Patrick Romieux appelait, lui, un dispositif émotionnel mondialisé, c'est-à-dire effectivement cette sorte de mise en injonction de vivre et de ressentir les choses suivant un certain ordre, avec un certain nombre de marges de manœuvre, mais au final, c'est pour faire les mêmes choses. Et puis de l'autre, pour essayer quand même de rendre compte un peu de quelle place ou comment encore chacun en arrive à justement avoir des comportements, des actions, des réactions différentes. Et finalement, ces réactions différentes ou ces sensations ou ces idées d'avoir des réactions différentes, est-ce qu'elles sont réelles ? Au sens de dire, est-ce qu'elles viennent vraiment de ce qu'on fait, ou est-ce qu'on post-rationalise un peu les choses parce que finalement on arrive à aligner, je ne vais pas dire toutes les planètes, mais toutes ces manières de voir, et que donc finalement dans le discours, même dans notre vécu, eh bien on s'arrange un peu avec les réalités. Ça, c'est quelque chose qui est exploré par un certain nombre de sociologues de la sociologie relationnelle à Sudbury. Qui explore justement essayer de comprendre comment on est, est-ce qu'on est plutôt rationnel, est-ce qu'on n'est pas rationnel, partant toujours du principe qu'on post-rationalise à chaque fois, c'est-à-dire que pour accorder ce que l'on fait et nos vies, on va s'inventer une espèce de logique, mais qui va être plutôt une mise en accord entre nos valeurs individuelles et les valeurs collectives. Merci de votre attention.
Pardon, oui, merci. Ça marche ? Oui, ah pardon. Merci Jean-Henri, peut-être avant de laisser la parole à la salle pour les questions, est-ce que tu avais porté un objet ou pas ? Est-ce
oui.
que tu pourrais
pardon,
nous dire quelques
très
mots ?
Juste,
pardon.
J'ai oublié, je m'étais gardé ça en tête, mais j'ai raté. J'ai amené un iPhone. Un vieil iPhone, non pas parce que j'ai réussi enfin au bout de 3 ans à me décider à changer de téléphone, mais parce que pour moi c'est un objet qui est un peu symptomatique à la fois de quand j'observe et je regarde un peu, quand je nous regarde et je me regarde moi, qui me questionne sur son rôle, et sur son rôle particulièrement dans l'urbain, c'est-à-dire comment à un moment ou à un autre, eh bien finalement j'ai l'impression que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on nous amène à faire, c'est quand même guidé, conditionné par cet objet-là. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est celui-ci qui m'a paru le plus... pour moi, le plus significatif par rapport à cette mise, effectivement, cette climatisation un peu généralisée et cette approche un peu médicale de ce qu'on fait.
Très bien, merci. Et donc, voilà, vous pouvez, si vous avez des questions, je passe avec le micro. S'il n'y a pas de questions, je me lance, je ne sais pas. Si, voilà, pardon.
Merci. J'avais une question, du coup, Georges-Henri, pour connaître le style. Au niveau de la végétation et de ce côté très méditerranéen, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve aussi sur d'autres centres commerciaux? Je pense, voilà, c'est une végétation qui est très sec, qui permet d'éviter de trop arroser. Enfin, il me semblait qu'on retrouvait ça, notamment, je ne sais plus comment on a appelé ça, l'outlet, je ne sais plus quoi... Ouais. Je suis désolée, mais où c'était plutôt des commerces un peu de marque, et voilà. C'est une question, ouais. Est-ce que tu as fait une analyse comparative avec d'autres?
Pas comparative pour le moment, parce que ça fait partie aussi des pistes, de se dire, tiens, si j'allais regarder ce qui se passe à Marseille, si j'allais ailleurs pour voir, pas nécessairement pour comparer, mais à un moment ou à un autre, de voir d'un côté comment le dispositif matériel, le discours, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce qu'ils sont différents? Qu'est-ce qu'ils vont chercher de vraiment très localisé ou soi-disant localisé? Mais sur le végétal, ce qui est, voilà, il y a une petite illustration qui le montrait, c'est un des gros éléments sur lesquels le style communique. En se disant, on est un espace de biodiversité, on a un espace vert, on a un espace durable, il n'y a pas une essence locale. Pas une seule. Alors que c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est plein de références justement à la fois aux chaînes de montagne, mais aux monts qui sont dans le coin, aux régions, etc. Bref, et il n'y a pas une seule essence qui est effectivement, on va dire, répertoriée au sens très large, que ce soit dans le Pilat ou que ce soit ailleurs. Donc ça, c'est déjà assez fort de dire on a ce double jeu, on veut bien être vert, on veut être vert, mais on utilise des choses qui, au final, ont demandé la production, du temps, etc. Alors peut-être qu'ils ont anticipé le réchauffement climatique et c'est ce qui va pousser à Saint-Étienne d'ici 10 ans, mais j'ai des doutes.
Très bien, je repasse le micro et j'en profite pour rappeler la consigne qu'on m'a moi-même rappelé de bien se présenter avant de prendre la parole.
Désolée. Du coup, Mathilde Giroux, post-doctorante au Cresson. Ce type de politique-là à Saint-Étienne avait déjà été mis en place dans les années 80, notamment pour végétaliser les gros... Ouais. Les gros crassiers et du coup ils étaient allés chercher de la végétation du désert, des choses comme ça. Alors je sais pas si du coup c'est une végétation qu'ils ont repris au style, non ?
Non, c'est vraiment. Alors c'est... là, j'ai discuté avec le paysagiste qui a eu en charge de ça. Lui, il a vraiment joué l'idée d'une végétation qui est ce côté méditerranéen. C'est vraiment ce qu'il voulait, mais dans le discours, ils annoncent quand même un espace de biodiversité sans rentrer plus dans le détail. Et c'était cette espèce de double jeu qui était assez surprenant. Mais après, c'est vrai que c'est général, en tout cas à Saint-Étienne, en tout cas sur les aménagements urbains et pas qu'urbains, tu signalais justement les crassiers, où ça questionne en termes d'usage ou non-usage des végétaux, allez, au sens très large, plutôt locaux.
Merci Georges-Henri. Laurent Devim... Voilà, c'est fait. Deux questions d'ordre assez différents. La première, c'est peut-être sur les temporalités de ce tournant. Tu le précisais, finalement, l'idée de décrypter le style. On aurait des choses proches, il me semble, il y a une vingtaine d'années. Évidemment, il y a des choses qui changent, mais tout de même, on a les centres commerciaux qui ont utilisé ce vocabulaire, cette sémantique et ces aménagements depuis quelque temps. Donc, est-ce que tu as une réflexion sur... ce qui bouge dans le marketing urbain et territorial depuis une trentaine d'années. Et mon autre question, c'est, je revenais sur la première partie de ton exposé où tu t'es intéressé à cette question de ce qui met en mouvement à partir du texte. Ce fameux texte dans Le Monde qui a généré des tribunes. Et donc, je me disais que c'était intéressant de... Peut-être, je ne sais pas si tu travailles ça dans ton approche de l'affect, de voir ce qui vient évidemment de l'expérience sensible telle que tu l'as évoquée dans ta deuxième partie, mais en quoi ça se connecte aussi avec de l'affect qui vient de la réaction au texte qui nous touche. Et je trouve que c'est un beau matériau, et peut-être que tu le fais déjà, d'analyser de très près cette affaire finalement, les rebonds, les universitaires, les élus, parce que c'était différents types d'affects, il me semble, qui étaient en œuvre. Voilà.
Ok, merci pour la question. Sur la première, je trouve que le marketing territorial, il a son évolution, après c'est très partiel, mais son évolution c'est plutôt sur l'objet où nous forcer finalement à adhérer à un certain nombre de valeurs directement ou à un certain nombre de projets, mais c'est un marketing qui le construit et qui quasiment l'auto-construit. C'est-à-dire si on n'est plus dans le vous adhérez, vous adhérez pas, mais finalement... vous allez le construire et on va l'auto-fabriquer. C'est un peu comme, pour moi c'est un peu de la même manière. Toute proportion gardée de ce qui peut illustrer ou ce qui se passe autour du patrimoine et du fait patrimonial. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, on était très dans le symbolique et puis on impose, entre guillemets, un certain nombre de valeurs. Et puis maintenant, ces valeurs-là, on va réussir tout de même à les faire fonctionner parce qu'elles vont devenir nécessaires par rapport aux usages. C'est-à-dire, pour pouvoir maintenir les usages, il va falloir s'appuyer sur le symbolique. Et je trouve que le marketing urbain, c'est plutôt adhérer à un certain nombre de choses, c'est quasiment les fabriquer dans le même mouvement. Donc, c'est une participation qui est plus qu'une acceptation. Je ne sais pas si ça répond à ta question et si ces termes permettent de le saisir. Et sur la question de l'expérience sensible et de la réaction, Michel Rothenberg l'avait fait dans son ouvrage, ou en tout cas avait commencé à l'amorcer dans son ouvrage, mais ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Les réactions avaient été pour le moment très sur la production d'images, en tout cas par rapport à cet écrit du Monde. Il y avait juste eu la fameuse banderole des supporters stéphanois qui envoyait une critique un peu. Mais sur l'analyse de discours, on a produit plus des photos que des discours en réponse à ça. Et c'était sur les textes, c'est effectivement, ou en tout cas quand on parle de ça et quand on parle sous-entendu pour essayer d'avoir des discours d'autres personnes, c'est de la réaction. Et c'est de la réaction, et c'est moi ce qui m'intéresse à Saint-Étienne, c'est ce jeu où, un, on va produire soit du positif, comme finalement pour dire, on voyait bien, on est comme toutes les autres villes et on essaye de se transformer, ou on va aller chercher le négatif et on va en faire quelque chose de particulier. Localement, quand on discute, on appelle ça la culture Beauceigne. On va mobiliser les aspects négatifs pour, au contraire, leur donner une certaine fierté. Ah bah oui, nous, on n'est pas comme. Oui, nous, on est, je ne sais pas quoi, mais c'est plutôt le négatif qu'on va mettre en avant. Et je ne dis pas que je ne l'ai pas observé ailleurs, mais ce qui m'intéresserait, ou en tout cas, c'est un des éléments, c'est d'aller creuser comment ce négatif-là, il est mis en valeur. Comment, justement, on en fait quelque chose de quasiment identitaire et quasiment positif par rapport aux autres. Alors qu'on devrait aller chercher, ou on pourrait dire, on va chercher que du positif, et du positif pour montrer à l'autre. Non, on va chercher ce qui est finalement ce qu'on ne pourrait pas ou ce qu'on ne devrait pas mettre en avant, en tout cas dans un processus de transformation de territoire. C'est une question, par exemple, les élus à Saint-Étienne sont, quand on discute avec eux, ils sont en panique par rapport à ça. Parce qu'ils disent, mais on n'arrive pas à enclencher la machine parce que même les gens ne veulent pas parler positivement de Saint-Étienne. Et au contraire, ils vont toujours aller chercher les choses, soit du passé, soit les choses un peu négatives.
Très bien, une question.
Oui, Rachel Thomas à Ucresson. Merci Georges-Henri pour ton intervention. J'ai peut-être une question dans la suite de ta réponse, en fait. Je me demandais, il y a une littérature assez foisonnante depuis quelques années sur l'embellissement, l'esthétisation, l'enchantement des espaces publics urbains, voire de l'image des villes, versus le contraire, l'aseptisation, le lissage. Et moi, je me demandais, de ton point de vue, en quoi le détour par la question de l'affect permettrait ou pas de dépasser justement ces modes de lecture de ce qu'on appelle aussi le marketing sensoriel, ou en tout cas d'en proposer une lecture plus fine et qui en fasse surtout valoir les paradoxes plutôt que de rester dans cette espèce d'opposition plus-moins, ouais. Image négative, image positive.
Je trouve que l'affect, et puis tout ce qui va avec, les affordances affectives, les atmosphères, enfin, là aussi, il y a tout un champ à essayer, en tout cas pour moi, d'essayer de maîtriser, parce que je disais que d'un point de vue méthodologique, il y avait cette question-là, mais d'un point de vue théorique, il y a encore ces questions-là, de dire à un moment ou à un autre, waouh, à quel moment, est-ce que je dois utiliser affect alors que je ne suis pas tout à fait d'accord, ou en tout cas, je ne suis pas sur le rapport affectif tel que Denis ou d'autres le travaillent. Je suis plutôt enclin d'aller voir du côté des affordances affectives ou de ces choses-là, parce que justement, ça m'intéresse, mais... Et puis, est-ce que je parle d'émotion? Est-ce que je parle de ressenti? D'un point de vue théorique, ce que je trouve intéressant, si on dit, je m'intéresse à ce qui met en mouvement, enfin, pour moi, c'est d'essayer de faire discuter. Ça ne veut pas dire que d'autres ne le font pas, au contraire, mais pour moi, c'est d'arriver à faire discuter d'un côté les structures sociales, c'est-à-dire tout ce qui est imposé et tout ce qui descend, finalement, tout ce qui est institué, et de l'autre côté individuel, tout ce qui est instituant, c'est-à-dire qu'on va chacun ou chacune essayer de mettre. Je trouve que par les affects, ou en tout cas, tel que, avec tout le flou artistique, entre guillemets, qu'ils ont pour le moment, dans mon vocabulaire à moi, c'est d'essayer de tenir, d'essayer de pouvoir articuler ces deux-là. De dire, c'est pas exclusivement, parce que c'est de l'émotion, c'est individuel, et puis ça s'arrête là, ou de l'autre côté, de dire, c'est institutionnalisé, au sens de dire, c'est produit, donc c'est pensé, donc c'est forcément pour un certain nombre de choses, me dire, eh bien, si on arrive à prendre tout le chaînage, mais avec le si, c'est-à-dire tout un tas d'incertitudes, c'est d'arriver à essayer de faire dialoguer ces deux-là. Pour justement sortir un peu de ce, comme tu disais, de ce côté, c'est aseptisé ou c'est embelli, ou c'est plutôt de l'autre contraire un embellissement, c'est-à-dire d'un discours officiel qui est plutôt tout est beau, tout est superbe, et sa critique première, qui est celle de dire ah non, attention, c'est au contraire, c'est un danger parce que ça réduit. Et je trouve encore, pour finir sur ce point-là, c'est cette petite idée que finalement tout fonctionne par une instrumentalisation des affects. Pas nouvelle, mais par justement ce jeu, ça rejoint peut-être sur le marketing urbain, justement une instrumentalisation des affects, comme avant, en tout cas dans une proportion qui n'était pas là avant, pour moi. Parce que justement, on nous enjoint à réagir, mais pas à réagir par rapport à ce qu'on donne, mais à lui trouver un sens, à le construire et presque à s'auto-climater là-dedans. Mais en essayant de trouver, encore une fois, ce qui est de l'ordre du collectif et ce qui est plutôt de l'ordre de l'individuel.
Très bien. Nous prenons encore deux questions.
Bonjour. Sylvie Laroche, à Ucresson. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est toujours un plaisir de revoir un terrain d'études qui porte sur les commerces. Et donc, j'avais deux petites questions. La première, c'était... on avait fait avec Grégoire Chelkoff une étude sur les centres commerciaux à l'échelle européenne. Et j'étais surprise de voir aussi la réaction des employés quand ils parlaient des ambiances. Et surtout, dans le cas de la chaîne M-Price qui se situe en Autriche, c'est que des bâtiments qui sont uniques et dessinés par des architectes plus ou moins réputés. Et donc, il y avait cette affection à travers ce bâtiment qui était vraiment révélé à travers le discours des employés. Donc, je ne sais pas si vous vous intéressez aux employés dans ce cadre-là. Et deuxième question, c'était aussi, ben, voilà, ma thèse, elle portait sur l'ambiance commerciale et l'emprise de cette ambiance commerciale. Et la piste qui était investie, qu'on avait pu aussi développer avec un autre projet sur Nature au bord de la route, avec Grégoire et d'autres personnes, c'était comment on échappait à cette ambiance commerciale, cette mainmise, ou quoi, mainmise, comme c'était le terme de plus fort pour Beyrouth, hein, mais c'est pas la même... emprise, on va dire, et c'était tous les espaces, les seuils où on échappait justement à cette ambiance plus uniforme, plus oui, une signature qu'on retrouve dans chaque promoteur, là, Alterea et autres, et qui était un peu contrebalancée à travers certains lieux, certaines pratiques.
Ok, alors sur la première, les employés, pour l'instant, on va dire, on va pas dire le seul employé, j'ai eu l'occasion comme ça, au gré des visites, de discuter avec des vendeurs, des vendeuses, mais juste comme ça, pour un peu saisir qu'est-ce qu'ils en pensaient. J'ai eu une discussion assez animée et assez houleuse avec le gestionnaire du centre commercial, mais plutôt en mode individuel. C'était pas du tout dans un cadre de recherche, c'était plutôt un cadre privé. On s'est retrouvé à un dîner, j'ai dit, tiens, ça sent le traquenard, mais tant pis. Et on a eu une discussion assez houleuse où lui, et je ne dis pas qu'il ait tort, lui mettait en avant la qualité de ce qu'il proposait en tant qu'aménagement par rapport à la faible qualité de la ville. Lui disait, j'exagère, je suis un sauveur, mais fondamentalement, le style a l'air, entre guillemets, de plaire, ou en tout cas, quand on y va, bah, on constate ça, et que ce soit individuel ou que ce soit les personnes. Mais c'était ce côté-là de dire, mais comment on peut proposer ça, ou sur quels éléments? Donc, employés, on n'a pas eu encore, j'ai pas eu l'autorisation, pour être clair, de discuter avec eux. Je ne suis pas blacklisté pour autant, mais je n'ai pas encore eu ça. Et puis, sur celle de l'ambiance commerciale, ça fait partie des questions qui se posent maintenant, pour moi, se dire, mais finalement, comment on arrive au style? Comment on passe, justement, par tout un... Est-ce qu'il y a des sas? Est-ce qu'il y a des seuils? Ou comment se fait l'arrivée au style? Est-ce qu'elle se fait tout en douceur? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une rupture assez grande à la fois à l'intérieur du centre commercial? Est-ce qu'il y a un parcours? C'est quoi l'objet central? Comment on passe? Enfin, je reprenais un peu, toute proportion gardée, ce que Marc Berdet avait écrit sur les fantasmagories du capital, c'est-à-dire l'organisation du centre, etc. Et à style, la spatialisation, les parcours sont complètement différents. L'objet central, c'est le parking. Parce que le parking, c'est celui qui est un peu un lieu de transition entre la sauvagerie urbaine et la sauvagerie de la ville. Et le reste du retail park est complètement détendu avec justement ses couleurs. Et je me disais, première chose, première surprise. Et puis de dire, quand toi, tu y vas, observe par quel stade tu passes avant d'y entrer, à quel moment tu y rentres, où tu as l'impression d'y rentrer, etc. Donc ça, c'est plus des questions qui sont, je vais pas dire sur des explorations nouvelles, mais j'essaye justement maintenant de comprendre, pas nécessairement comment on s'évade, ou au contraire, où on s'évade, où on se met en retrait, est-ce qu'il y a des espaces qui ne sont pas encore pris par ça, mais comment on y arrive, et puis petit à petit, comment on se fait envelopper ou non par cette ambiance-là.
Très bien. Une dernière question, brève, avec une réponse concise, si je puis me permettre.
Ça va être difficile. Merci beaucoup pour la présentation, Jean-Paul Thibault. Une question en une minute qui sera plutôt sur la question des affects. Je trouve qu'elle est évidemment très importante pour nous quand on travaille sur l'ambiance. Et je pense qu'il peut permettre d'ouvrir aussi une discussion au sein de l'UMR sur cette notion même. Parce qu'il me semble que si on veut très, très schématiser les choses, on pourrait dire qu'il y a au moins deux approches assez différentes de la notion d'affect. Une approche qui vient plutôt de la phénoménologie. On retrouve l'idée de tonalité affective, etc. La question de l'émotion, de l'éprouver, du sentir, etc. Et puis d'autre part, ce qu'on trouve du côté des atmospheric studies, enfin toute l'approche anglo-saxonne, en fait, hein, des atmosphères, qui met au premier plan la notion d'affect, mais dans une perspective assez radicalement différente. en partant du post-structuralisme, d'une approche de Leuzienne de l'affect, etc., qui est quand même très différente. Donc savoir si vous posez cette question-là, en fait, comment vous situez, est-ce que vous êtes est-ce que vous construisez une discussion entre ces différentes approches autour de l'affect.
Ouais, j'essaye. Justement, bah, c'était à la faveur d'un récent colloque à Montpellier où on s'était retrouvé avec Rachel. Moi, je me posais ces questions-là au sens de dire forcément phénoménologique en partant du principe que finalement, on est tous concernés par ça, avec des degrés différents suivant nos histoires, nos souvenirs, nos capacités mais quand même très structurelle ou très anglo-saxonne pour le coup, au sens de dire, non pas qu'il y a un méchant derrière, mais au sens de dire, il y a quand même des choses qui sont imposées. Enfin voilà, c'était bien cette idée pour moi de remettre ça dans le cadre finalement des imaginaires sociaux, mais de les ouvrir. Mais c'est vrai que forcément, sur affect, affectif, affectivité, lequel des trois termes prendre qui permettrait justement de dire ben, oui, je vais chercher du côté des émotions, donc je suis plutôt phénoménal, parce que c'est ça qui intéresse. Mais les émotions, au final, c'est juste un petit bout. Je pense à... C'était un géographe que Laurent doit connaître, Monsieur Bédard de l'UQAM, qui avait fait tout un boulot sur justement les différences entre l'affect, les émotions, la perception et l'action, où justement, moi, je me disais, ben non, les quatre, comment tenir tout ça? Et est-ce que, quand je dis effectivité, ça me permet de tenir tout ça ou pas? Donc, je suis un peu... J'essaye. Je commence juste, parce que forcément, il faut déjà, traduire tout ce qui est anglo-saxon en français. Mais je pense que je penche quand même plus du côté des affordances affectives et des atmosphères studies, si je puis dire. Plutôt que la partie phénoménaux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.